Donc, entrée en vigueur vendredi du décret qui prévoit que les employés du réseau de la santé doivent être doublement vaccinés, sans quoi c'est la suspension sans solde. Le ministre Christian Dubé doit présenter un plan de contingence, on le disait tantôt avec Bernard, avec des corridors de service, parce qu'on est en train de mesurer l'impact de cette mesure. Combien d'employés vont devoir quitter? On sait que l'Ordre des infirmières a décidé de suspendre également le permis de pratique. On fait le point sur la situation au Centre hospitalier de l'Université de Montréal avec le PDG, Dr. Fabrice Brunet. Bonjour, Dr. Brunet.
Bonjour, M. Arcan.
Alors, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire d'abord ce matin combien d'employés vous allez perdre vendredi?
Écoutez, je ne suis pas actuellement capable de vous donner un chiffre très précis, puisque chaque jour, nous avons de plus en plus de personnes qui vont se faire vacciner pour être protégées adéquatement. Mais je pense que ce sera aux alentours de 500 personnes sur 14 000.
Quel est l'impact du départ de ces 500 personnes?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un hôpital, ce n'est pas uniquement des médecins, des infirmières, des inhalos, c'est aussi tous ceux qui contribuent à la distribution des soins et des services. Toutes ces personnes qui travaillent dans différentes fonctions, que ce soit l'hygiène et la salubrité, par exemple, vous ne pouvez prendre une chambre que si elle a été adéquatement nettoyée, ou bien les services alimentaires, si un repas n'arrive pas à un moment donné pour une personne, par exemple, diabétique, ça contribue au traitement, mais également tous les tests de laboratoire, tous les tests de radiologie qui vont contribuer au diagnostic et au traitement. Donc, aucune personne actuellement n'est pas utile, voire même indispensable pour les soins. Et il y a une distribution assez hétérogène de ces personnes qui vont partir, ce qui va donc entraîner des impacts. Si on pense aujourd'hui les impacts les plus forts, c'est essentiellement les laboratoires, la radiologie, la médecine nucléaire, mais également les services alimentaires, l'hygiène et salubrité.
Terrain, là, concrètement, ça veut dire quoi? Moins d'examens, retard dans les diagnostics, par exemple?
Alors, justement, nous avons beaucoup travaillé puisqu'on a été prévenus à temps par le ministère et par le ministre. Donc, depuis 6 semaines à peu près, nous retravaillons pour trouver au niveau du terrain des solutions qui nous permettent à la fois de s'assurer de la pertinence des examens, donc d'en diminuer certains qui n'étaient pas obligatoirement essentiels. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas utiles, mais qui n'étaient pas essentiels pour le diagnostic ou le traitement. Ce qui permet de diminuer la charge au niveau des laboratoires, au niveau de la radiologie. Mais nous avons aussi des équipes du terrain qui, comme toujours au CHUM, travaillent pour trouver des solutions locales faciles à mettre en place, très faciles à adapter et à adopter, et qui nous permettent de limiter au maximum l'impact pour la qualité des soins, l'accès, la sécurité des patients, tout en respectant l'équilibre des équipes.
Ce que mes auditeurs veulent surtout savoir, je vous dirais, est-ce que ça veut dire qu'il y aura, par exemple, une liste d'attente qui va s'allonger? Est-ce que ça veut dire que le temps pour obtenir un rendez-vous, pour avoir un diagnostic, risque d'être plus long? Autrement dit, qu'en raison de l'impact du départ de 500 personnes, le service va être directement affecté?
Le service va être directement affecté, mais de façon très modérée, du fait que nous avons eu le temps de nous préparer et de trouver des solutions de réorganisation. Ce que je vous dis, c'est qu'avec les solutions que le terrain a proposées et mises en place immédiatement, on devrait avoir très peu d'impact sur nos blocs opératoires, sur nos listes d'attente chirurgicales, sur la prise de rendez-vous. Je vous donne un exemple qui est l'endoscopie, qui a travaillé depuis plusieurs mois pour optimiser l'utilisation de ses ressources, pour pouvoir réduire les listes d'attente, les temps d'attente et augmenter notre capacité par rapport à l'endoscopie. Ce sont un ensemble de mesures que nous avons tous ensemble travaillées, y compris les médecins qui sont des leaders dans cette transformation, mais en équipe avec les gestionnaires et tous les soignants, y compris les autres. Donc, a priori, pour répondre précisément à votre question, on devrait peu impacter sur les listes d'attente et on devrait peu impacter, voire pas du tout, sur les durées de séjour qu'on essaye de réduire. Et tout ça fait d'ailleurs partie de notre réflexion sur comment repenser le système de santé dans le futur, comment améliorer nos pratiques pour pouvoir mieux répondre aux besoins de la population.
Par exemple, Il y a combien de blocs opératoires au CHUM et il y en a combien qui sont fonctionnels actuellement?
30 blocs opératoires, plus les 4 en dehors que sont les deux de césarienne et celui des grands brûlés, plus l'ophtalmo. Et nous avons actuellement la totalité de nos blocs qui fonctionnent.
Les 30 blocs, tous les jours, il y a des patients qui font l'objet d'une chirurgie.
Absolument. Alors, avec le problème du 15, il se peut que nous ayons besoin de retravailler un petit peu sur le type de chirurgie que nous allons faire, mais tout en gardant toujours notre mission tertiaire-quaternaire. Vous savez que le CHUM a à la fois des corridors de service, à la fois régionaux, suprarégionaux et provinciaux, et que certaines des activités du CHUM ne peuvent pas se faire ailleurs ou se font qu'avec un nombre limité d'autres CHU ou instituts. Et donc, nous travaillons pour aussi respecter toujours notre mission tertiaire-quaternaire.
Vous avez dit à mon collègue Bernard Drainville, pardon, qu'il n'y a plus de temps supplémentaire obligatoire au CHUM. Est-ce que la situation à partir de vendredi va vous amener peut-être à imposer justement à nouveau du temps supplémentaire?
Il n'y a plus de temps supplémentaire obligatoire au CHUM depuis 3 ans et demi. Il y a aussi la possibilité d'organiser au niveau du terrain pour des 12 heures, pour différentes formes, temps plein, temps partiel, changer dans le fonction du temps. Les horaires sont refaits, comme je vous donne par exemple aux urgences, par le terrain lui-même. Et 2 mois avant, tout est programmé. Les gens peuvent changer à l'intérieur parce qu'il faut respecter, faut pas oublier que ce sont des personnes, des êtres humains qui travaillent, qui ont aussi leur équilibre personnel, familial. Et donc, nous n'avons plus de TSO depuis 3 ans et demi. Nous ne mettrons pas de TSO, nous ne remettrons pas de TSO, je me suis engagé avec nos équipes, à partir du 16 octobre. Et nous resterons sur notre même philosophie, qui est une philosophie humaine, qui jusqu'à présent nous a permis d'avoir à la fois un travail d'extrême qualité et un équilibre pour nos équipes.
Est-ce que vous avez senti que la vaccination obligatoire avec, disons, la menace d'une suspension sans solde a eu un effet? Autrement dit, du personnel qui hésitait, qui était peut-être récalcitrant, qui finalement ont décidé de se faire vacciner?
Oui, tout à fait. Mais je veux dire, ça s'est fait également avant cette menace, où nous avons rencontré, je le fais aussi personnellement, mais il n'y a pas que moi, les médecins ont travaillé dessus, et d'autres gestionnaires, pour expliquer qu'actuellement, c'est un virus potentiellement mortel, qu'il n'y a pas de traitement antiviral pour l'instant qui puisse éliminer le virus, que les seules façons de se traiter, c'est les précautions de prévention et contrôle des infections, distanciation, port du masque, lavage des mains, mais également le renforcement de l'immunité de la personne par la vaccination. Et le fait également que la vaccination, au fur et à mesure de son application, a montré qu'il y avait extrêmement peu d'effets secondaires, a permis de convaincre de nombreuses personnes. Bien sûr, le décret a encore un peu plus appuyé sur leur décision, mais c'était déjà le cas avant, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour l'instant que la vaccination et les mesures de précaution contrôle des infections.
Il y a certaines personnes qui avancent l'idée de permettre aux gens qui ont reçu une première dose de continuer à travailler dans l'attente d'avoir la deuxième dose. Selon vous, c'est une méthode efficace ou pas?
Mais ça, c'est difficile de vous répondre sur l'efficacité. La question, c'est une gestion de risque. C'est-à-dire, est-ce que la qualité des soins, la sécurité des patients et l'équilibre des équipes seraient impactés négativement par ce que vous décrivez, c'est-à-dire de leur permettre d'attendre la deuxième dose? C'est une question de bénéfices et de risques à bien mesurer. Ce que je peux vous dire, c'est quand même qu'au CHUM, depuis 8 mois, nous avons 0 infection nosocomiale de transmission de la COVID. La seule cas qui a été, c'était une femme qui est venue voir son mari qui elle-même était infectée. Et le nombre de cas d'infection au sein de nos équipes est extrêmement faible. On a en moyenne 4 à 5 personnes sur 14 000 et eux n'ont jamais transmis le virus à qui que ce soit. Ils se le sont transmis entre eux, mais toujours en dehors de l'hôpital pas dans les conditions de l'exercice à l'hôpital.
On parle depuis tantôt des gens qui vont quitter, donc le personnel qui va quitter. Est-ce que depuis l'annonce des primes, par exemple, vous avez été en mesure de recruter des infirmières, infirmiers, inhalo qui étaient partis vers le privé ou à la retraite et qui ont accepté de revenir, par exemple, au CHUM?
Oui, mais pas en très grand nombre pour l'instant. Nous avons effectivement procédé, comme on nous l'avait recommandé, à des appels téléphoniques personnels pour pouvoir avoir le plus grand impact. Ceci étant, ça ne compensera pas complètement les 500 et quelques personnes qui devront partir au 15 octobre. Mais oui, ça a marché en partie.
Ce qui veut dire combien de personnes?
Là, je n'ai pas le chiffre actuellement, mais je dirais une centaine à peu près.
Merci, Dr. Brunet. Bonne journée à vous.
Merci à vous.
Au revoir. Dr. Fabrice Brunet, le président-directeur général du CHUM. Il est 7h37.